Voilà, chers amis, nous allons ouvrir nos Bibles, tout d'abord pour lire un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, je vous propose la lecture des versets 2 à 6 de ce premier chapitre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 1er, versets 2 à 6, que je lis pour vous. Une invitation à l'écoute. Cieux, écoutez. Et c'est vrai, hein, nous devons le dire. Les cieux vont écouter durant toutes ces soirées. Les cieux, le monde invisible. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par lui. Nous allons vers l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains, où nous lisons aussi quelques versets au chapitre 1er d'abord, les versets 16 et 17, du chapitre 1er, qui constitue ce que l'on pourrait appeler le passage clé de toute l'épître, Romains 1, versets 16 et 17. Où Paul, de la part de Dieu, proclame, affirme, témoigne, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice ou une justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et puis nous allons vers le chapitre 12. Chapitre 12 qui a inspiré le titre choisi pour cette série de réflexions, Romains chapitre 12. Nous en lisons les deux premiers versets. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique ou spirituel, et ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez continuellement transformés, métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence de votre mentalité, de votre esprit, de vos pensées, afin que vous discerniez, appréciez, éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Je vais vous relire ce passage, mais je vais vous le relire dans une transcription. Une transcription n'est pas exactement une traduction, c'est une manière d'approcher le texte original, c'est-à-dire pour le Nouveau Testament, le texte grec, en essayant de presser chaque mot du texte original comme s'il était un citron, un fruit, pour en exprimer toutes les saveurs. Et comme les mots du texte grec peuvent avoir plusieurs sens, et des sens qui sont tout à fait valables pour le même texte, le transcripteur va essayer de rendre les nuances du texte pour qu'on ait en quelque sorte l'arc-en-ciel, la beauté, la richesse du texte original dans sa traduction française. Alors je vous donne la transcription de ce texte qui est très très belle. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Offrez vos corps, auxquels d'ailleurs j'ajouterai et j'associerai étroitement un second impératif, puisqu'il est présent dans ces deux versets. Offrez vos corps en offrant vos cœurs. Offrez vos corps en offrant vos cœurs. Verset 1er, offrez vos corps. Verset 2, offrez continuellement vos cœurs. C'est dans cette double direction que nous allons réfléchir, Bible en main, paisiblement, dans la présence de Dieu, conduit par son esprit, durant ces rencontres. Pour introduire ce thème, il nous faut quand même dire quelques mots sur le livre biblique qui contient ces versets. L'Épître aux Romains. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé simplement cette question, mais comment se fait-il que l'Épître aux Romains, qui est une donc des 13 épîtres dont la signature est de l'apôtre Paul, comment se fait-il que cet épître soit placé en tête de ces épîtres? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un caprice de je ne sais quelle société biblique dans l'histoire. Mais si l'épître aux Romains est placé en tête des 13 épîtres signés de manière claire, sans ambiguïté, de l'apôtre Paul, c'est non seulement parce que son volume est important, c'est vrai, avec ses 16 chapitres, mais c'est essentiellement parce qu'il faut le dire, c'est le livre, en dehors des évangiles, le livre du Nouveau Testament, stratégiquement le plus important. Oh, ça ne veut pas dire que lorsque nous lisons le petit billet de Paul à Philémon, le message soit un message secondaire sur lequel nous puissions passer très rapidement, disons, oh, c'est pas important, il n'y a qu'un chapitre, c'est un petit billet personnel. Non, ce n'est pas ce que nous avons voulu dire. Mais il y a, dans le Nouveau Testament, des textes qui sont plus essentiels, plus stratégiques que d'autres, parce qu'ils contiennent vraiment la moelle dont l'Église de Jésus-Christ, dont l'homme tout simplement, a besoin. Et il faut se souvenir que cet épître s'appelle l'épître de Paul aux Romains. Et Rome, eh bien, c'était tout de même la capitale de l'Empire romain, qui vraiment régnait sur le monde d'alors. Et on peut donc comprendre que l'apôtre Paul a attaché un soin tout particulier à rédiger, inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit, a pris un soin particulier à rédiger cette épître, puisqu'elle était adressée à une église qu'il ne connaissait pas personnellement. C'est intéressant, il n'était jamais allé à Rome. Mais il avait derrière lui plus de 25 ans de ministère. Il avait parcouru des milliers de kilomètres avec les moyens de bord de l'époque. Et si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, qui est une sorte d'autobiographie où il raconte avec son cœur les souffrances qu'il a connues, on est toujours impressionné de savoir tout ce qu'il a vécu pendant ses 25 ans. Et il a pris de la bouteille, comme on dit, sur le plan spirituel. Il a acquis de la maturité. Il a grandi dans les voies du Seigneur, lui aussi. Et donc, avec ces années de service, de ministère, de souffrance, où il a vu des églises naître et grandir dans toute cette région d'une partie de l'actuelle Turquie essentiellement, il avait accumulé aussi une connaissance vivante, intime du Seigneur, de ses voies, de ses desseins, de ses plans. Et il était conduit par Dieu à livrer ce merveilleux héritage à l'Église de Jésus-Christ à Rome. Cette épître a été écrite depuis la ville de Corinthe, après un séjour assez important de Paul, pendant l'hiver 57-58, à l'occasion du troisième grand voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et comme je l'ai laissé sous-entendre, l'épître de Paul aux Romains a été appelée la clé d'or des Écritures. C'est un des grands théologiens de la fin du siècle dernier, suisse, qui disait qu'elle est la cathédrale de la foi chrétienne. Le grand réformateur Jean Calvin, en vieux français, écrivait ceci: quiconque est parvenu à la vraie intelligence, dit-elle, c'est-à-dire de celle-ci, à la vraie intelligence de celle-ci, a comme la porte ouverte pour entrer jusqu'au plus secret trésor de l'Écriture. Et puis nous avons le grand réformateur Martin Luther, qui a fait la grande rencontre de sa vie avec celui qu'il cherchait désespérément et qu'il craignait, mais d'une peur épouvantable, Dieu lui-même, qui a fait la rencontre de ce Dieu sauveur à partir de cet épître aux Romains. Il écrira, Luther, dans la préface de cet épître, que l'épître aux Romains est le livre capital du Nouveau Testament, le plus pur évangile. Elle est digne non seulement d'être sue mot par chaque chrétien, mais de devenir l'objet de sa méditation journalière. Plus on s'en occupe, plus elle devient précieuse et paraît meilleure. Et la conversion à Jésus-Christ du moine Martin Luther va découler de son étude de Romains au chapitre 1, et en particulier de cette révélation intérieure, de cette illumination de son cœur, de son intelligence, à la lecture de ce verset que nous lisions tout à l'heure, le verset 17 du chapitre 1er, « En lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Oh, qu'est-ce qu'il s'est battu avec ce texte. Parce qu'il ne réussissait absolument pas à le comprendre. Il avait peur de la justice de Dieu. Parce qu'il pensait que dans ce texte, il est question du caractère de Dieu, de la qualité de Dieu parfaitement juste. Alors vous imaginez, pour un homme qui cherchait Dieu, pour un moine, il était affolé. Il se rendait compte de son indignité, de son incapacité à être juste, à atteindre ce niveau suprême de la justice parfaite de Dieu. Et ça le mettait dans des colères absolument effrayantes, n'est-ce pas? Il se révoltait contre ce Dieu parce qu'il ne pouvait pas trouver la paix, il ne pouvait pas trouver le salut, il avait peur de ce Dieu juste. Je vais vous lire un extrait très intéressant d'une biographie de Luther. Alors qu'il était dans son couvent et qu'il avait enfin la possibilité de lire la Bible, il écrit ceci: « J'ai été un moine pieux, je puis l'affirmer. Et j'ai observé la règle si sévèrement que je puis dire, si jamais moine est parvenu au ciel par sa moinerie, j'y serais bien arrivé aussi. Tous mes compagnons de cloître qui m'ont connu peuvent l'attester. Toute ma vie n'était que jeûne, veille, oraison, sueur. Je me suis épuisé à force de jeûne, de veille, de prière, d'autres œuvres très pénibles. Je croyais sérieusement pouvoir acquérir la justice par mes œuvres. » Et il est arrivé que ses compagnons moines le retrouvent le matin inanimé au sol, tout simplement parce qu'il s'était épuisé à force de jeûne, à meurtrir son corps, en espérant pouvoir être sauvé en meurtrissant son corps, n'est-ce pas? Alors il continue. « Pourtant, j'étais l'homme le plus malheureux de la terre. Nuit et jour, je ne faisais que pleurer et me désespérer, et personne ne pouvait y remédier. Sous le couvert de cette sainteté, de cette confiance en ma justice propre, je nourrissais une perpétuelle défiance, des doutes, une crainte, une envie de haïr et de blasphémer Dieu. J'ai été moine pendant 15 ans et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais je me disais toujours, comment pourras-tu devenir pieux et faire assez pour gagner la faveur de Dieu? Les cheveux se dressaient sur ma tête quand je pensais au jugement dernier. Nous avons cru que nous devions apaiser la colère divine par nos œuvres et mériter le ciel. mais nous n'avons réussi à rien. Rien ne guérissait la plaie de mon âme. Et puis voilà qu'un jour, dans sa détresse, Dieu se révèle à son cœur et lui fait comprendre le sens de cette justice de Dieu. Non pas le caractère du Dieu juste, mais le Dieu qui a trouvé, qui a un moyen en quelque sorte de ne pas punir le coupable, de ne pas le précipiter loin de lui dans l'enfer éternel, en lui donnant une justice, en faisant de lui en quelque sorte une personne juste. Dieu donne une justice, nous allons le voir, nous allons en parler. Dieu donne une justice au coupable pour qu'il ne soit pas condamné. Et ça, ça a été un bouleversement absolument extraordinaire pour Martin Luther, qui subitement a découvert qu'il pouvait être justifié. Comme nous le verrons, innocenté, déclaré non coupable, revêtu du vêtement de la justice parfaite de Jésus-Christ. Écoutez son témoignage. Malgré le caractère irréprochable de ma vie de moine, je me sentais pécheur devant Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète. Je n'avais aucune certitude que Dieu soit apaisé par mes œuvres. Aussi, je n'aimais point ce Dieu juste et vengeur, je le haïssais. Et si je ne blasphémais pas en secret, je m'indignais, je murmurais violemment contre lui. Je disais, n'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi? Faut-il encore qu'il augmente notre tourment par l'Évangile et que là même il nous fasse annoncer sa justice et sa colère? J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve le passage de saint Paul relatif à la justice de Dieu dans l'ardent désir de savoir ce que saint Paul avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais jour et nuit et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Je commençais à comprendre que justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Aussitôt, je me sentis renaître et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer d'une façon analogue. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. C'est ainsi que le passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Et quand on sait quel a été l'impact de la nouvelle naissance du moine Luther sur l'ensemble de l'Europe et dans d'autres pays du monde, nous bénissons Dieu de ce qu'il est éclairé au moyen de ce texte de l'Épître aux Romains. Et je le demande à Dieu, je l'ai demandé, parce que peut-être y a-t-il parmi nous des amis qui sont sympathisants ou qui ont pris un jour une décision pour Christ, mais qui ne connaissent pas encore vraiment Jésus-Christ comme nous sommes appelés à le connaître. Et je demande à Dieu que simplement par l'exposé de sa parole, de ce que nous allons voir dans l'Épître aux Romains et ailleurs, le voile se déchire et qu'il y ait durant ces soirées jusqu'à dimanche, des moments de révélation. Vous savez, l'Évangile est une révélation. Nous pouvons argumenter, nous pouvons utiliser notre matière grise, toutes nos capacités, toutes nos connaissances intellectuelles, si ce n'est pas Dieu qui déchire le voile, s'il ne s'adresse pas lui-même à notre cœur pour nous faire comprendre cette moelle de l'Évangile, nous pouvons être les plus brillants des hommes, ça ne sert absolument à rien. Et ce que je demande à Dieu, c'est que, durant ces rencontres, Dieu soit le Dieu qui se révèle à nos cœurs. Parce que c'est ce dont nous avons besoin, vous et moi. Je pense aussi à la nouvelle naissance de John Wesley, celui qui a été le fondateur, en quelque sorte, du mouvement méthodiste qui existe toujours, mais qui, hélas, est généralement très très loin du message biblique tel que Wesley l'a découvert et tel qu'ensuite il l'a partagé avec la puissance d'en haut, au point que tout d'abord l'Angleterre, et puis à partir de l'Angleterre d'autres pays du monde ont été absolument bouleversés de fond en comble, des régions entières, par le glorieux message prêché par John Wesley. Et John Wesley était déjà missionnaire chez les Indiens, âgé de plus de 30 ans, sans être converti à Jésus-Christ. Vous voyez, on peut même être évangélique, membre de l'église du bon berger, et ne pas être converti à Jésus-Christ. Oh, je le dis. Sans vouloir vexer mon cher frère Raymond, mais je suis sûr qu'il me comprend. Parce qu'hélas, nous sommes dans un temps où il y a de plus en plus de prétendus disciples de Jésus-Christ sur les bancs de nos églises évangéliques, parce qu'un jour, ils ont pris une décision. Un jour, j'ai pris la décision de demander la main de ma femme. Mais je ne me suis pas arrêté là. Nous vivons depuis un peu plus de 30 ans ensemble. Et c'est comme ça que c'est devenu délicieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est si facile de dire « je suis évangélique, membre de telle église ». J'entends le message depuis des années tous les dimanches. Je fréquente les réunions de la semaine. Et de ne pas avoir un milligramme de vie d'en haut dans son cœur. Et je demande vraiment au Seigneur que, dans sa grâce, il crée, si c'était nécessaire, un manque d'assurance là où il y a une assurance mal placée. Parce que nous pouvons avoir parfois de fausses certitudes. Alors que Dieu nous déstabilise, si cela était nécessaire. De manière à ce que vraiment nous passions par une vraie régénération comme celle qu'a connue John Wesley le mercredi 24 mai 1738. À l'âge de 35 ans, lui qui était déjà pasteur, missionnaire, et qui ce soir-là a entendu simplement la lecture de la préface du commentaire de l'Épître aux Romains par Martin Luther. Et c'est en entendant la lecture de la préface de cet Épître aux Romains de la plume de Luther que vers 9h moins le quart, écrit-il, John Wesley a senti son cœur se réchauffer étrangement. Il écrit ceci vers 9h moins un quart, le soir donc, en entendant la description qu'il fait du changement que Dieu opère dans le cœur par la foi en Christ. Je sentis que mon cœur se réchauffait étrangement. Je sentis que je me confiais en Christ seul pour mon salut. Et je reçus l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. » Oh, nous aurions pu longuement évoquer un des pères de l'Église, Augustin, Saint Augustin, comme on dit, qui aussi a rencontré le Christ de manière radicale par la lecture de l'Épître aux Romains. C'était un homme qui avait déjà derrière lui une certaine expérience de vie. Il avait quitté l'Afrique du Nord pour venir habiter dans la région de Milan, en Italie. Il avait une vie dissolue, il avait derrière lui déjà plusieurs maîtresses, dont il avait eu en tout cas au moins un enfant, pour l'une d'entre elles. Il vivait une vie vraiment dissolue. Sa mère, Monique, aimait le Seigneur Jésus. Et elle priait pour Augustin de tout son cœur, pour qu'il vienne vraiment à rencontrer Jésus-Christ. Et ça s'est passé dans le parc, dans le grand jardin de sa propriété. C'était un homme très brillant, professeur de rhétorique. Il était capable de discours flamboyants, une intelligence absolument remarquable. Mais un homme terriblement malheureux dans sa peau. Esclave de ses passions, esclave de sa sensualité, d'une sexualité complètement débridée. Mais malheureux, assoiffé de Dieu, et qui, ce jour-là, dans son jardin, était en proie à un terrible combat intérieur. Auprès de lui était un de ses étudiants, de ses élèves, Alypius, qui allait devenir son collaborateur pendant des dizaines d'années, et qui allait se convertir à Jésus-Christ tout de suite après Augustin. Et à un moment donné, dans un entretien avec une personnalité de Milan, il a été tellement troublé intérieurement là dans ce parc qu'il s'est retiré vers le fond du jardin pour continuer son combat intérieur. Et à ce moment-là, il a entendu dans la propriété voisine une voix d'enfant. Une voix d'enfant qui chantonnait, qui répétait « Prends Élie, prends Élie, prends Élie, prends Élie ». Et il a cru comprendre qu'au travers de cette voix d'enfant, Dieu s'adressait à lui et lui demandait de prendre la Bible, son rouleau, notamment de l'Épître aux Romains, qui était là, tout près, pour l'ouvrir et pour y lire un passage. Et il a donc déroulé son parchemin, il s'est mis à lire et il est arrivé au texte de Romains au chapitre 13, où il est écrit au verset 13, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, toutes les expériences sexuelles les plus abominables, quelles qu'elles soient, de la débauche, des mœurs licencieuses, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs coupables. » Et quand il a lu ce passage, cet homme dont je vous disais il y a un instant qui livrait son corps à ses passions complètement débridées, n'est-ce pas, a été vraiment foudroyé par le Seigneur. Et là, dans ce jardin, il a trouvé la paix avec Dieu. Et ensuite, Dieu l'a utilisé pendant des dizaines d'années pour faire un travail remarquable. Toute sa théologie n'est pas bonne à prendre, comme c'est le cas pour la plupart des pères de l'Église, comme on les appelle. Mais Dieu l'a utilisé de manière absolument remarquable. Nous avons évoqué Luther, John Wesley, nous avons évoqué Saint Augustin, nous aurions pu prendre quantité d'autres personnages, je pense à Jean Chrysostome, qui a été aussi un de ces pères de l'Église absolument remarquable. Et Chrysostome veut dire « bouche d'or ». Et c'est vrai que c'était un orateur aussi très particulier. Eh bien, lui lisait l'Épître aux Romains deux fois par semaine. Alors peut-être que ça vaudrait la peine que nous passions plus de temps que nous le faisons habituellement dans la lecture de cette épître, puisqu'elle est tellement capitale. L'Épître aux Romains est l'exposé le plus complet que les Écritures donnent de la doctrine du salut par la foi. Nous avons dans l'Épître aux Romains un exposé détaillé et pratiquement systématique de l'Évangile, des doctrines fondamentales du christianisme. Elles posent le fondement de la foi. Et donc, nous l'avons dit, cette épître a d'abord été adressée à la capitale de l'Empire romain, la ville de Rome, qui avait peut-être entre 800 000 et 1 million d'habitants à cette époque. Une ville qui était en pleine décadence, comme tout l'Empire, où on commençait à être dégoûté de toutes les idoles classiques du panthéon romain. On se tournait de plus en plus vers des cultes orientaux, comme on le voit à l'heure actuelle d'ailleurs. Et la situation de corruption, de décadence de Rome était telle que pour stabiliser tant soit peu Rome, on avait multiplié les jours de fête, les jours de congé aux frais de l'État, et j'ai relevé qu'à cette époque, il y avait dans l'année au moins 182 jours fériés. 182 jours fériés, dont 93 étaient réservés aux jeux du cirque et aux représentations diverses aux frais du gouvernement. Et certains d'entre vous ont entendu la formule célèbre « Panem et circenses » du pain et des jeux. Donnez-nous du pain et des jeux, et cela nous suffit. Si je vous dis cela, c'est parce que c'est le monde d'aujourd'hui. Les loisirs se multiplient. L'homme d'aujourd'hui veut du pain et veut des jeux. Et le reste du temps, il se plaint, n'est-ce pas ? Le monde d'aujourd'hui, comme nous allons le voir, ressemble étrangement au monde romain du 1er siècle. Et c'est à ce monde romain et à l'Église de Jésus-Christ à Rome qui allait souffrir. Et là aussi, nous devrions nous en souvenir. Vous savez, il y avait un empereur qui allait créer bien des problèmes à Rome. Quelques années plus tard, hein, nous sommes en 57-58, en 64, des quartiers entiers de la ville impériale, donc de Rome, vont flamber, et la main qui sera très certainement derrière ce gigantesque incendie sera celle de l'empereur lui-même, Néron. Et qui va être utilisé comme bouc émissaire et accusé d'avoir incendié Rome, ce sera l'Église de Jésus-Christ. Et il va y avoir une hécatombe, n'est-ce pas, des centaines et des centaines d'authentiques disciples de Jésus-Christ à Rome qui, quelques années après avoir reçu cet épître, vont périr à cause de la folie de Néron qui va s'attaquer aux chrétiens. Et certainement qu'il y a des croyants qui ont reçu cet épître et qui ont été ensuite utilisés comme torches dans les jardins du palais de Néron, puisqu'on a utilisé certains chrétiens pour les envelopper de résine, de poids, vous savez, pour en faire des torches qu'on enflammait et qui brûlaient dans les jardins du palais de Néron. Donc là encore, on peut comprendre que l'apôtre Paul veut équiper l'Église de Jésus-Christ à Rome, parce que l'Église de Jésus-Christ à Rome va connaître des temps difficiles. Alors je ne veux pas être un prophète de malheur, Mais pourtant, dire ceci, c'est que rien ne nous indique que les choses, la situation pour l'Église de Jésus-Christ dans les années qui viennent, aille en s'améliorant. L'Église de Jésus-Christ, si elle est fidèle, va devoir vivre des combats de plus en plus intenses. Et malheur à ceux qui se prétendent disciples de Jésus-Christ et qui seront mal enracinés. Alors Dieu se sert de la vie de l'Église locale tout au long de l'année. Dieu se sert de ces temps forts comme nous le vivons cette semaine aussi pour préparer son Église à des temps qui peuvent devenir très difficiles. Et vous savez, ça peut changer très vite. Très vite. Est-ce que nous voulons aussi vivre cette semaine dans cette perspective que Dieu est peut-être en train aussi de vouloir nous préparer à aborder des moments qui pourraient être difficiles si nous voulons rester vraiment fidèles au Seigneur et à sa parole? Quel est le plan de cet épître de Paul aux Romains en relation avec Romains chapitre 12, avec le texte que nous avons lu en dernier? Je vous demande, frères, je vous supplie, je vous encourage, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, par les compassions de Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Quel est le plan de cet épître? Trois grands chapitres. Trois grandes parties. Tout d'abord, ce que l'on pourrait appeler la philosophie du salut. Qu'est-ce que le salut? Avec quatre grandes parties sur lesquelles nous allons venir tout à l'heure. La philosophie du salut. Les chapitres 1 à 8. Vous verrez un magnifique exposé et on ne peut pas parler de salut sans parler de condamnation. Alors aujourd'hui, on a évacué la condamnation. On a tellement peur de perdre les gens qu'ils fuient les lieux de rencontre qu'on ne parle surtout pas de condamnation. C'est dangereux, la condamnation. Ben, mes amis, tant pis, on va parler de choses dangereuses. Condamnation. L'apôtre Paul commence, conduit par le Saint-Esprit, à souligner notre besoin de l'œuvre du salut. À quoi sert-il de parler du salut si on est en face de gens qui estiment ne pas en avoir besoin? Il faut d'abord créer le besoin, montrer que l'homme a besoin du salut. Et l'apôtre Paul le montre en soulignant de manière très forte, du chapitre 1, verset 18 jusqu'au chapitre 3, verset 20, que tous les hommes, sans exception, tous les hommes, sans exception, ont besoin du salut. Nous allons y revenir. Et après avoir magistralement, simplement, mais avec une profondeur digne de Dieu seul, développé ce thème de la condamnation, Paul en vient à ce que nous avons évoqué tout juste tout à l'heure, cette deuxième roue fondamentale du salut, la justification. La justification qui couvre les chapitres 3, verset 21, 5, verset 21, c'est-à-dire la nature de l'œuvre du salut. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre du salut? Et qu'est-ce que c'est dans ce sens? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a fait pour nous afin que nous connaissions le salut? Quel est la nature de l'œuvre du salut, l'œuvre de Christ pour nous. Une fois que l'apôtre Paul aura développé cette deuxième roue absolument fondamentale de ce glorieux char du salut, il en vient à la troisième roue, la sanctification. Et la sanctification part de chapitre 6, verset 1er, pour aller jusqu'au chapitre 8, verset 17. Il ne s'agit plus maintenant de ce que Christ a fait un jour pour nous, comme nous le verrons tout à l'heure, mais de l'œuvre de Christ en nous. Et la sanctification, c'est l'œuvre de Christ en nous dans son développement actuel, aujourd'hui. Chaque jour de notre vie, tant que nous sommes sur cette terre, une fois que nous avons accepté vraiment de tout notre être ce que Christ a fait pour nous. Condamnation, justification, sanctification, il manque une roue, la glorification. Oh, elle occupe peu de place dans la fin de ces 8 chapitres, mais c'est un des passages peut-être les plus lus dans l'Église de Jésus-Christ dans le monde, un des passages les plus bouleversants, chapitre 8, versets 18 à 30, la glorification, la vie chrétienne dans son épanouissement éternel, quand je regarde devant. C'est le sommet. Vous avez, en quelque sorte, dans ces 4 éléments, tout d'abord la fondation, et la fondation, sur la base de la condamnation, c'est la justification. Vous avez ensuite une superstructure qui monte, hein, comme quand on monte une maison, c'est la sanctification. Et vous avez un toit extraordinaire quand tout le reste a été fait, et ce toit, c'est la glorification. Condamnation, justification, sanctification, glorification. La vie chrétienne dans son épanouissement éternel, l'œuvre de Christ en nous, mais dans sa réalisation définitive. L'œuvre du salut poussée à son extrême. Parce que, comme nous le verrons, nous ne sommes pour le moment sauvés qu'en espérance. Nous sommes sauvés. C'est un fait, c'est acquis. Mais vous le savez, notre corps va de décrépitude en décrépitude. Notre tente est de plus en plus mauvais état, hein. Mais heureusement que l'intérieur se renouvelle en attendant que nous recevions un merveilleux corps de résurrection. Voilà donc le grand message, la philosophie du salut. Alors, nous allons simplement, parce que je ne veux pas ce soir alourdir trop notre étude, parce que vous avez été courageux, après une journée de travail, mais simplement au moins entamer la question de la condamnation parce qu'elle est très intéressante concernant notre thème. L'apôtre Paul commence en évoquant la colère de Dieu. Vous voyez, hein, chapitre 1, verset 18, hein, le début du thème de la condamnation, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On ne va pas entrer dans tous les détails de ce texte, je vais vous en donner les grandes lignes, parce que nous avons tout un terrain pratique à parcourir d'ici dimanche. Ce que l'apôtre Paul fait, c'est de mettre en évidence la culpabilité universelle. C'est-à-dire la culpabilité aussi bien des païens que des juifs, des gens irréligieux que des gens religieux. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Paul va utiliser 15 versets pour mettre en évidence la condamnation des gens irréligieux, de ceux qui disent « moi, je crois en rien ». Mais il va utiliser 37 versets pour développer la condamnation des gens religieux. Parce que le problème, c'est que plus on est religieux, plus on est tenté d'être orgueilleux de sa religion et de penser que l'on n'a pas besoin de se tourner vers Jésus-Christ.
Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de pire qu'un évangélique non converti. Autrefois, je disais, il n'y a rien de pire qu'un protestant non converti, parce que je suis d'origine protestante, je suis d'origine calviniste, et il n'y a rien de pire qu'un protestant non converti, qui va tous les dimanches à l'église, qui entend les beaux messages du sermon sur la montagne, toute la morale religieuse, etc., et qui dit, moi, je suis quelqu'un de bien. Dieu ne pourra que m'accepter dans son ciel, parce que je fais partie d'une catégorie de gens bien. Il n'y a rien de pire qu'un propre juste religieux. Et on peut être propre juste religieux évangélique. Moi, j'ai rencontré tout au long de mon ministère, des croyants évangéliques qui n'étaient pas convertis à Jésus. En discutant pendant un petit moment avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Alors ne soyons pas trop sûrs en pensant que parce qu'on est évangélique, il n'est pas dit dans la Bible que l'évangélique est systématiquement sauvé. Hein. C'est pas ce que disent les Écritures. Et on peut avoir une religion de plus. On s'est converti à l'évangélisme, simplement, n'est-ce pas? C'est à la personne de Jésus-Christ qu'on se convertit. C'est lui que l'on rencontre. Et il n'y aura personne à l'entrée du ciel pour vous dire, est-ce que tu es évangélique? Est-ce que tu as été membre de l'église de Dillon ou de hein? Non, pas du tout. Est-ce que tu as une relation avec mon fils bien-aimé? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu as un face-à-face avec lui? Est-ce qu'il s'est assis à ta table? Est-ce que vous avez partagé le pain et le sel ensemble? C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Culpabilité universelle. Et là, l'apôtre Paul ne va pas y aller par quatre chemins, il va parler des dégâts terribles provoqués dans l'homme par le refus de se donner à un Dieu qui s'est révélé. Et Dieu se révèle. Dieu se révèle de mille et une manières à travers le livre de sa création, à travers le livre intérieur de la conscience. Mais bien sûr, tout cela est totalement insuffisant pour se donner à Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la parole a été faite chair, que Jésus-Christ est venu au milieu des hommes. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné la parole de Dieu pour que nous puissions vraiment être sauvé, connaître cette nouvelle naissance. Regardez au chapitre 1er, versets 21 et 22. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence ou leur cœur insensé a été plongé dans les ténèbres. Ça commence où? Ça commence au niveau du cœur. Je vous le fais remarquer parce que c'est une constante dans les Écritures. Ça commence au niveau du cœur. Et le cœur dans les Écritures, c'est pas simplement le siège des émotions. Vous connaissez cette parole, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Boum boum, les sentiments, l'affectivité. Le cœur dans les Écritures, c'est pas ça d'abord. C'est un des termes clés de la Bible, le mot cœur. Il figure près de 1000 fois dans le langage divin des Écritures. Et il constitue le centre de notre personne, la partie la plus profonde de notre personnalité, le quartier général de chacune de nos individualités. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui émanent toutes les sources de la vie. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous avez des centaines de textes qui parlent dans les Écritures de l'importance du cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Littéralement, de tes deux cœurs. Une sorte de superlatif extrêmement fort, vraiment, de tout ton cœur. Ce qui signifie de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et au cœur du cœur, vous avez l'entendement, l'intelligence, la mentalité, la raison, la volonté, les pensées. Très souvent, vous verrez le mot cœur associé au mot pensée dans les Écritures. Alors le cœur se met à dérailler. Le cœur de celui qui refuse Dieu dans sa vie, qui refuse Jésus-Christ, est un cœur sans intelligence, un cœur insensé, plongé dans les ténèbres. L'homme qui ne veut pas de Dieu déraille d'abord dans ses raisonnements. Son intelligence se met à travailler dans le vide. Il y a une anarchie en lui, un désordre en lui, dans le domaine intellectuel, dans le domaine moral, dans le domaine affectif. Il pense de travers. Et vous savez, on le voit. On le voit notamment aujourd'hui dans le domaine de l'art. Quand vous regardez dans un musée ou dans des galeries l'art dans ses émanations actuelles, vous vous rendez compte qu'il est la projection de l'anarchie qui existe dans la tête, dans le cœur, parce que le cœur est un peu l'équivalent, si vous voulez, du cerveau. Et quand on voit les bêtises dont l'homme moderne est capable avec tous les moyens qui sont à sa disposition, n'est-ce pas? C'est incroyable. Combien l'homme moderne manque de bon sens? Ça ne vous a jamais frappé? C'est pas possible. Comment? Il ne voit pas ça, mais c'est comme le nez au milieu du visage. Comment est-ce qu'on ne se rend pas compte que des enfants sont violents, que des adultes violent, mentent, trichent, tuent, agressent, et que ça a un rapport étroit avec ce dont les gens nourrissent chaque soir leur intelligence devant un petit écran de télé? Comment est-ce qu'on ne voit pas ça? Comment est-ce qu'aucun de nos politiciens aujourd'hui et de nos psys et compagnie, comment est-ce qu'ils ne voient pas ça? Que la première réforme qui devrait être engagée, ce serait au niveau des médias, au niveau de la télévision, pour que chaque jour des hommes et des femmes cessent de se nourrir non seulement de poubelles, mais de meurtres, de sang, de saleté en puissance et de violence qui vont se traduire dans leur vie de tous les jours le lendemain. Mais l'incohérence qui fait qu'on ne veut plus mettre un lien entre les choses. Mais ça vient du refus de Dieu. Refusez Dieu, refusez Jésus-Christ et vous devenez complètement incohérent, vous commencez à penser de travers. Et c'est pour ça que nous, disciples de Jésus-Christ, nous avons tant de problèmes maintenant parce que nous ne réussissons pas à penser de cette manière. Mais quel est le résultat? Vous avez vu à partir des versets suivants, verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les désirs coupables de leur cœur. De leur cœur. Le cœur est toujours là. Hein? Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Offrez vos corps. Voilà, le corps est là. Le problème de celui qui refuse Jésus-Christ dans sa vie, c'est qu'il va déshonorer son propre corps. Et vous avez vu jusqu'où va ce déshonneur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est-à-dire, c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, avilissantes, déshonorantes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel. Le texte dit littéralement leurs femelles. l'apôtre Paul, conduit par Dieu, ravale à ce moment-là l'homme, créé à l'image de Dieu, au rang de l'animal à quatre pattes. Il n'est plus question désormais que de mâle et de femelle dans le texte. Leur femelle ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les mâles, abandonnant l'usage naturel de la femelle, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant mâle avec mâle des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. XIV des premiers empereurs romains étaient homosexuels. Et la décomposition morale de l'Empire, et de Rome en particulier, à l'époque où Paul écrivait, était absolument incroyable. D'ailleurs, j'ai relevé des citations de personnages de cette époque, d'écrivains ou de philosophes, Sénèque par exemple, qui disait que Rome était un cloaque de vices, c'est-à-dire un égout en quelque sorte de vices. Et un écrivain, Juvénal, écrira ceci: Rome est un égout nauséabond où se répand la lie, toute la pourriture de l'Empire. Le divorce, bien sûr, était extrêmement courant. Les déviations de la sexualité, toute la corruption la plus immonde se vivait à Rome. Et en fait, quand Paul écrit aux Romains, il ne fait que décrire l'état d'immoralité de leur propre cité. Alors moi je suis frappé, je ne sais pas si vous l'êtes avec moi, par l'actualité de cet épître. Il est question ici d'homosexualité. Et j'ai du mal à comprendre comment de soi-disant croyants, même évangéliques, osent dire, après avoir lu un tel texte, qu'il n'est jamais question d'une homosexualité condamnée par Dieu dans les Écritures. Est-ce qu'il existe un texte qui soit plus clair que celui-ci dans la parole de Dieu ? Certes, Dieu aime l'homosexuel, parce que Dieu aime tous les hommes de ce monde. Et Dieu veut sauver tous les hommes de ce monde. Et si l'homosexualité est abominable dans les Écritures, elle l'est au même titre que d'autres péchés que nous serions tentés de classer peut-être sur une échelle à un barreau inférieur. Ne disons pas « Oh, moi je ne suis pas homosexuel, donc je suis mieux qu'eux. » Mes mensonges ont crucifié Jésus-Christ. Ma cupidité a crucifié Jésus-Christ. Mes mauvaises pensées ont crucifié Jésus-Christ. Et je suis tout aussi coupable en dehors de Christ que l'homosexuel. Donc il ne s'agit pas de projeter une sorte de haine à l'endroit de la personne. Mais mes amis, il n'y a jamais de charité pour le péché. L'homosexualité est, au regard de Dieu, une distorsion d'un des plus beaux cadeaux que Dieu ait fait à l'homme, parce que la sexualité est un merveilleux cadeau qui a été fait à l'homme. Mais simplement, elle doit fonctionner dans un cadre. Et le cadre qui a été prévu pour son bon fonctionnement, c'est celui du mariage. Et pas un autre. Et maintenant, quand elle fonctionne à l'intérieur du mariage, elle doit fonctionner selon certaines règles. Parce que Dieu veut qu'on aime d'abord avec son cœur avant d'aimer avec son corps. Et le diable a dit que c'était le contraire. Qu'on pouvait aimer n'importe qui au plan sexuel avec son corps, et peut-être qu'à partir de là, ça allait s'arranger au niveau du cœur. Et on voit le résultat tous les jours, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que dans l'Église de Jésus-Christ, on a gobé ces mensonges. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de plus en plus d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes qui pensent qu'on peut faire n'importe comment. Et mes amis, si nous pensons que nous pouvons faire n'importe comment, moi je vous dis, nous ne sommes pas convertis à Jésus-Christ. Il faut que ce soit clair. Si nous pensons que nous pouvons vivre tout en nous réclamant de Jésus-Christ n'importe comment dans notre sexualité, mes amis, moi je doute de notre conversion à Jésus-Christ. Parce que nous allons le dire, notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Comment le sanctuaire de Jésus-Christ pourrait-il aller coucher dans le lit de l'adultère un jour, deux jours, 10 jours, un mois, un an, mettre même des enfants au monde et puis continuer à vivre sa petite vie soi-disant chrétienne, prenant même parfois la scène? Ah, mes amis, non. Dieu est saint. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Mes amis, mais ça, c'est... Tous les jours, on vit ça. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Combien on essaye d'approuver, de peser, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, il faut aller dans ce sens. Chez nous, du matin au soir, on nous dit, mais toute l'Europe doit aller dans le même sens. Mes amis, voilà ce qu'on fait de son corps quand on ne connaît pas Jésus-Christ, quand on refuse Dieu, quand on se conduit en insensé. Toutes les facultés de l'homme sont au service du mal. Offrez vos corps. En fait, c'est le diable qui mène le bal. C'est le diable qui utilise la personne. Et l'apôtre Paul, et nous terminerons avec cela, va enfoncer le clou dans la conclusion sur ce thème de la condamnation de l'humanité tout entière. Au chapitre 3, verset 9. Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs, genre religieux, grecs, donc le monde païen, sont sous la domination du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous remarquez, ça commence par le cœur. Nul n'est intelligent. L'apôtre Paul, à nouveau, conduit par le Seigneur, montre que tout démarre au niveau du cœur, au niveau de l'intelligence. Intelligence obscurcie. Et la traduction de cela, verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, le corrier, hein, leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous remarquez, gosier, langue, lèvres, bouche. L'importance de tout ce qui tourne autour de ce petit machin-là. Hein? 60 grammes, 10 centimètres de long à peu près. Hein? femme, mes amis. Quatre mots qui tournent autour de ce problème de la langue. Offrez vos corps. Offrez vos langues. Vous savez que quelqu'un dit un jour, notre grand problème, à nous évangéliques qui pratiquons le baptême par immersion, c'est que nous oublions généralement de baptiser ce qui est peut-être le plus important. La langue. Quand la personne passe sous l'eau, elle ferme la bouche et c'est son problème. Parce que c'est la langue qui a besoin d'être baptisée. Parce qu'elle a été frappée à mort dans la mort de Christ sur la croix. Mais que de drames, n'est-ce pas, hein, dans nos vies et dans nos églises, simplement à cause de ce petit truc-là. Alors il continue. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et les pieds. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Les yeux. Ils auront l'occasion d'en parler. Ses yeux. Y compris les yeux intérieurs. Parce qu'il y a les yeux physiques, mais derrière les yeux physiques, il y en a d'autres. Et là aussi, ça pose des problèmes. Vous voyez, le cœur obscurci par le refus de marcher avec Dieu, de connaître Dieu, de plaider coupable. Et le résultat, c'est que tout le corps fonctionne de travers. Alors, je sais bien, hein, c'est une triste fin ce soir. C'est comme ça, on va s'arrêter à la condamnation. Mais en demandant à Dieu de travailler dans nos cœurs. Parce que même nous qui sommes disciples de Jésus-Christ depuis des dizaines d'années, peut-être nous avons besoin de ce message. Certaines vérités fortes des Écritures ont besoin de nous être rappelées tout le temps. Parce que nous avons besoin de nous souvenir d'où nous avons été sortis. Surtout chaque fois que nous avons envie de replonger dans ce purin, dans cette saleté, n'est-ce pas ? Souvenons-nous d'où Dieu nous a sortis en Jésus-Christ. Ce qu'il a déjà commencé à faire en remettant de l'ordre dans cette pagaille immonde. Mes amis. Alors demain se lèvera demain soir l'aurore de la justification. Nous voulons prier. Ô Seigneur, merci pour le vieux livre dont la parole est toujours nouvelle, tellement actuelle. Seigneur, il n'y a pas de poussière dans tes mots. Merci parce que tu dis vrai. Je le reconnais pour moi-même. Merci de m'avoir sorti de la fosse de destruction. Merci de m'avoir tiré de cette fosse sceptique, de toute cette saleté. Que serais-je si tu ne t'étais pas révélé à mon cœur ? Que serais-je aujourd'hui ? Mais merci. Merci pour la justification. Et merci de m'avoir tout d'abord un jour convaincu que j'étais condamné, que j'avais besoin d'être sauvé. Je te bénis de tout mon cœur parce que tu as été honnête avec moi. Tu ne m'as pas lancé de la poudre aux yeux pour me gagner. Tu m'as dit la vérité, une vérité qui dérange. Mais c'était parce que tu m'aimais. Donne-nous aussi, avec amour, de partager cette même vérité. Qui n'est pas à bien plaire, mais qui est pour bien sauver. Merci de nous raccompagner ce soir, chacun, dans nos foyers, et de nous renouveler selon nos besoins personnels, dans nos forces, pour la journée de demain, pour la soirée de demain. Mais Seigneur, s'il te plaît, rencontre-nous. Nous avons besoin de toi, soif de toi, mon âme soupire après toi. Alors visite-nous durant cette semaine, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.